Poussez, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour vos chroniques terriennes. Chroniques terriennes, émission animée et réalisée par Eric Kolz, tous les lundis de 21h à 22h sur les ondes de Radio Pays d'Aurillac, en rediffusion le samedi de 20h à 21h. Vous pouvez retrouver vos chroniques terriennes sur YouTube, sur la chaîne Chroniques terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple, contactez-moi au 07 69 25 96 69. Vous pouvez également me contacter sur Instagram, Chronique terrienne. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, pour commencer, c'est de cyclo-logistique dont nous allons parler avec Élise Burguin, créatrice de l'entreprise Cycle of Course. Puis, nous ferons un petit tour du côté du sismographe où le groupe Ashkabad se produira le 28 janvier prochain à 21h. Bonne émission à tous. Élise Burguin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans notre émission Chronique terrienne. Vous avez créé en juin dernier une entreprise de livraison à vélo. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Eh oui, effectivement, j'ai créé une entreprise en fait qu'on appelle c'est de la cyclo-logistique et en fait il s'agit de transporter en fait des marchandises avec un vélo cargo. Alors j'ai choisi en fait d'appeler mon entreprise Cycle of Course pour avoir le terme de cyclo pour faire la référence au vélo bien sûr. Et après j'ai choisi d'y ajouter of course parce que en anglais ça veut dire bien sûr, évidemment et tout naturellement. Donc voilà, c'était pour moi une évidence.
Oui, c'était une évidence puisque vous venez d'un domaine totalement différent. Vous étiez psychologue, c'est bien ça?
Oui, j'étais psychologue sur l'hôpital d'Aurillac.
C'est étrange, enfin ça peut paraître étrange à certains de changer aussi radicalement de profession. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça?
Ce qui m'a conduit à ce changement, en fait, j'ai eu un quatrième enfant et à partir du quatrième enfant, je me suis mise en congé parental et en fait, j'ai continué en fait ma passion que j'avais déjà depuis plusieurs années. J'ai pu explorer ma passion du vélo et prendre le temps. Donc, à vélo, on a fait pas mal de choses. On a déjà acheté un vélo long tail pour se séparer d'une vieille voiture et puis pour véhiculer nos enfants et transporter tout le matériel dont on avait besoin pour notre quotidien. Et puis, on a pris le temps aussi de faire des grands voyages avec toute la famille à vélo. Donc, j'avais envie de poursuivre le vélo, mais cette fois-ci dans un cadre professionnel.
Donc, pour vous, c'est quand même une démarche familiale, globalement. Votre mari vous suit, c'est plutôt cool.
Oui, c'est plutôt cool. Ça fait déjà quelques années qu'on était sur cette démarche et qu'on a essayé en tout cas d'avoir une utilisation modérée de la voiture. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, l'expérience aidant, on se rend compte qu'en fait, on peut faire énormément de choses à vélo, que ce soit les déplacements quotidiens et puis même partir en vacances.
Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'une remise d'un chèque de 3 000 € pour votre entreprise par l'association Sort Optimiste qui soutient des projets d'entreprise dirigés par des femmes. Est-ce que pour vous c'était important ça?
Oui, c'est important parce que justement mon histoire a fait que quand je me suis arrêtée 6 années quand même pour élever mes enfants, j'étais mère au foyer. C'est un travail difficile et au moment de reprendre, on va dire, une activité professionnelle, mais j'ai trouvé que c'était aussi de leur part, voilà, ça me paraissait important. Elles avaient aussi envie de soutenir la reprise d'une femme au foyer, voilà.
Avec 4 enfants, effectivement, on n'a peut-être pas envie de reprendre un boulot sur lequel on va passer peut-être 35-40 heures par semaine. Peut-être que vous travaillez plus, mais différemment à l'heure actuelle, non ?
Oui, en fait, j'organise, j'arrive à organiser mes tournées et puis tout le travail à côté, j'arrive à l'organiser et aujourd'hui c'est assez confortable puisque j'arrive à continuer à m'occuper de mes enfants et puis tout en reprenant une activité professionnelle.
Donc un équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, c'est un peu ce que vous avez gagné en créant cette société.
Oui, c'est ce que j'ai gagné. J'ai gagné aussi cette liberté de pouvoir m'organiser le mieux possible.
Est-ce qu'il y a eu une peur d'entreprendre ?
Est-ce qu'il y a eu une peur d'entreprendre ? Oui, un petit peu. Il y a eu une peur d'entreprendre. C'est jamais facile, surtout quand on a été pendant longtemps éloigné du monde du travail. Parce que le monde du travail avance et avance sans vous. Alors quand vous arrivez, vous reprenez un peu les choses en main, vous vous sentez un peu dépassé parce qu'il y a pas mal de les choses ont changé. Après, non, j'ai été assez sereine parce que je crois en mon activité et puis encore une fois, voilà, je savais que je pouvais faire évoluer les choses. Puis ce serait à mon rythme, donc j'étais pas très inquiète.
On vous a poussé un petit peu quand même à créer cette entreprise.
Oui, on m'a poussé un petit peu. C'est vrai que la rencontre avec la Biocoop a été un déclencheur pour moi, puisque ils m'ont donné, comme je l'avais dit, un petit coup de pied aux fesses. Et donc ça a été vraiment chouette pour moi parce que j'avais plus le choix. Ils avaient vraiment besoin de moi pour assurer les navettes entre leurs deux magasins. Donc j'ai pas eu le choix. Donc j'y suis allée.
Quelquefois, ça aide.
Ça aide bien d'avoir des gens et puis d'avoir des gens qui autour de vous qui croient en votre projet et qui ont besoin de vous.
Et se retrouver au pied du mur aussi.
Et se retrouver au pied du mur, c'était exactement ça. Le magasin ouvrait le 24 juin, donc on n'avait plus le choix, et il fallait y aller. J'ai eu un petit peu de stress parce que j'avais commandé un beau vélo et que mon vélo n'arrivait pas. Donc j'ai été chercher un vélo à Montpellier et voilà, pour que les choses puissent se faire en temps et en heure.
Il y avait personne sur Aurillac qui pouvait vous fournir cet équipement ?
Non, les vélos cargo, c'est pas évident. C'est des vélos qui généralement sont sur commande, donc j'aurais pu effectivement en fait acheter ce vélo dans une boutique cycle à Aurillac, mais c'était sur commande avec des délais relativement longs et je n'avais plus le temps. Et donc il a fallu que je trouve une boutique cycle à Montpellier qui avait un vélo disponible de suite.
Déjà en stock, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Bon, ça fait quelques mois que vous exercez maintenant. Je suppose que vous avez pris un petit peu en musculature.
Oui, c'est vrai. Alors, on prend un peu en musculature. C'est vrai que les gens nous disent de temps en temps « Oh, mais bon, ça doit aller, c'est un moteur électrique. » Alors, ben oui, il y a un moteur électrique, heureusement. C'est une assistance électrique, mais l'assistance électrique ne fait pas tout. On transpire un peu quand même. Donc,
Pour avoir fait le Puy-Marie avec un vélo assistance électrique, effectivement, on transpire.
On transpire, voilà. Et donc on transpire pas mal. Et puis, j'ai un vélo cargo et je tracte derrière une remorque, voilà, dans laquelle je peux charger environ 200 kilos de marchandises.
J'allais y venir.
Donc c'est vrai que l'assistance électrique effectivement aide beaucoup, notamment au démarrage. Mais après, il faut pédaler.
La relation entre le cycliste et les autres usagers de la route, elle se passe comment ?
Alors ça, c'est une très bonne question et c'est une question, c'est un peu une réponse un peu mitigée, on va dire, parce que c'est un peu, il y a des attitudes un petit peu extrêmes dans les deux sens. Donc je peux avoir des automobilistes qui sont assez craintifs de me voir arriver comme ça, circuler sur la route avec eux. Donc ça donne lieu parfois à des petites altercations, on va dire quand même. Et puis de l'autre côté, il y a des automobilistes qui sont ravis de me voir et j'ai plutôt des signes d'encouragement.
Les altercations, elles sont plus avec les hommes ou avec les femmes ?
C'est une bonne question. Pour être honnête, je pense davantage avec les hommes.
Alors, messieurs, conduisez-vous correctement, s'il vous plaît. Ce que vous faites, c'est quand même quelque chose d'assez innovant pour une ville comme Aurillac. Je sais, on va en parler un petit peu plus tard, que vous avez d'autres projets de développement. À l'heure actuelle, à Aurillac, c'est la Biocoop votre plus gros client ?
Oui, aujourd'hui, c'est la Biocoop, puisque j'assure une navette quotidienne, 6 jours sur 7, pour la Biocoop. Donc effectivement, on va dire que c'est mon client régulier.
Vous êtes toute seule ou vous avez des employés ?
Alors, pour l'instant, je suis toute seule. Et puis, actuellement, je suis en train de m'associer avec Pierre Mousti, qui, lui, est conseiller en mobilité durable, donc qui est aussi un amoureux, un passionné du vélo, mais pas que. Et donc, je pense que, voilà, on est en train on a un projet un peu plus ambitieux autour des mobilités durables. Mais voilà, il viendra aussi de temps en temps me donner un coup de pouce pour pédaler.
On en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'effectivement, avec lui, vous avez aussi un projet de création d'autres choses sur Clermont-Ferrand, c'est bien ça ?
C'est ça.
On va rester un petit peu sur Aurillac. Vous avez donc la Biocoop comme client. Est-ce que vous avez aussi des clients des particuliers ?
Non, on n'a pas de clients pour l'instant particuliers. En fait, c'est un service aujourd'hui qui est vraiment dédié aux professionnels.
Uniquement aux professionnels ?
Pour l'instant, uniquement aux professionnels, puisqu'on est dans l'objectif en fait de réduire en fait l'impact écologique sur ce qu'on appelle en fait le dernier kilomètre, c'est-à-dire toutes les marchandises qui entrent dans le centre-ville, ce fameux dernier kilomètre qui en fait a un coût économique.
Et qui va des points de redistribution finalement jusqu'aux dernières personnes, enfin, ou en tout cas jusqu'aux dernières entreprises.
C'est ça, c'est exactement ça, oui.
Est-ce que vous avez passé des contrats avec des sociétés, je ne sais pas moi, comme Chronopost, DHL, TNT ou pas encore ?
Non, pas encore. En fait, le Cycle of Course a envie de continuer effectivement à se développer, mais on est dans une démarche, en fait, dans une démarche, ce qu'on appelle une démarche coopérative, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir mettre aujourd'hui autour de la table aussi bien les élus, les commerçants, les transporteurs, et pouvoir en fait imaginer ensemble une solution de cycle logistique qui réponde finalement au mieux aux besoins des uns et des autres. Alors, donc c'est une démarche qui est intéressante, mais qui prend un petit peu de temps à se mettre en place.
Est-ce que la CABA est là pour vous aider ?
Alors pour l'instant, nous n'avons pas rencontré la CABA. On espère que la CABA, effectivement, ça fait partie des partenaires qu'on aimerait avoir avec nous et des personnes qu'on aimerait pouvoir mettre autour de la table pour pouvoir discuter et échanger autour d'un service. Voilà.
Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur ? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur ? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour ? Tour de France, non, mais j'ai fait des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit ? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur ?
Vous parlez d'un raisonnement ? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon.
Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirigea ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur ? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur ? Moi, je suis balayeur. vous savez faire la cour?
Oui, que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur, ah, ce que vous êtes coureur.
Vous parlez de raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait rien. Bon.
Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons.
Des bicyclettes.
Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur.
La bicyclette, bicyclette.
Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu.
Assez bicyclette, bicyclette, moi de glace, je peux pas rien le dire.
Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début.
Assez kiblette, moi de glace, bicyclette.
Est-ce que vous êtes coureur?
Moi,
je ne suis pas coureur.
Est-ce que vous êtes menteur?
Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé.
Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue.
Radio Pays d'Aurillac.
Vous avez eu une couverture médiatique assez importante. Est-ce que des élus ont fini par s'adresser à vous?
On a demandé des rendez-vous. Donc il y a des rendez-vous qui ont été faits. Il y a déjà eu des rencontres. Il y a déjà des discussions. Mais voilà, pour l'instant, on en est à cette phase-là.
Voilà, phase de discussion.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que vous êtes senti bien reçu malgré tout?
Par
Les élus en général.
Par les élus? Ah oui, les élus en général ont bien reçu. On a été relativement on a été bien reçu. L'idée pour eux est assez originale. Ils ont également ils connaissent les problématiques d'engorgement, les problèmes de stationnement et de tout ce qui tous les problèmes qui dans le centre-ville avec les transporteurs en carboné. Donc ils sont voilà, et le problème ils le connaissent. Après à voir s'ils vont être d'accord pour que la cycle logistique vienne répondre, en tout cas en partie, à ces problématiques.
Oui, surtout que vous avez finalement un avantage. Vous pouvez passer de la piste cyclable à la route et aux rues piétonnes.
Tout à fait. On a un accès qui est quand même très facilité avec les quelques pistes cyclables. Et dans le centre-ville, on roule très bien à vélo.
Depuis peu de temps, sur Aurillac, il y a l'opération « Bien savoir rouler à vélo ». À destination des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable, ce genre d'initiative?
Oui, elle est indispensable. D'ailleurs, à tel point que je viens de m'investir auprès de l'équipe des éducateurs sportifs de la ville et de MCF VTT. Et je vais collaborer avec eux pour amener aussi un peu mon savoir-faire et dans ce programme du savoir rouler à vélo pour les jeunes.
Ce qui est important finalement, parce qu'il y a des enjeux à la fois de sécurité, de respect des uns des autres et peut-être d'avoir un comportement cycliste aussi qui soit cohérent avec la route.
Oui, oui, tout à fait. Après, ce qui est effectivement important aussi à faire comprendre, il faut aider. Finalement, il y avait le savoir nager et maintenant il y a le savoir rouler, donc c'est très bien. Et c'est effectivement de faire comprendre aussi aux jeunes que le vélo, voilà, c'est aussi, il y a un usage du vélo. On n'est pas forcément non plus uniquement dans une pratique sportive, comme on a tendance à un peu trop à limiter le vélo aujourd'hui en France dans ce domaine, et de dire que il y a des usages du vélo qui sont possibles, qu'il est possible de se déplacer à vélo pour se rendre à l'école, pour pouvoir se rendre au travail, pour pouvoir transporter de la marchandise. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai envie aussi d'apporter dans ce programme du SRAV, c'est de pouvoir en fait montrer et parler des différents usages du vélo et de l'intérêt aussi du vélo, de l'intérêt économique, de l'intérêt écologique et du vélo.
Je suppose que vos enfants sont cyclistes?
Mes enfants sont cyclistes. Alors avec mes enfants, ils sont cyclistes depuis maintenant de nombreuses années. Et parce qu'on a pris l'habitude l'été de partir voyager en famille et nous partons à vélo. Donc oui, c'est des grands rouleurs.
Vous avez visité un petit peu l'Europe, je crois. Vous avez visité des endroits où le cyclisme est peut-être un petit peu plus mis en valeur.
Et oui, effectivement, nous, il y a quelques années, depuis maintenant, ça fait faire 3 ans que l'été, nous partons en Scandinavie. Donc, on est parti un peu rouler du côté du Danemark, de Suède, Finlande. Et c'était très enrichissant pour nous parce qu'on a effectivement pu voir à quel point, malheureusement, la France avait un retard.
Nous allons, pour terminer, aborder vos projets d'avenir, puisque vous en avez, qui sont des projets dans quelque chose de peut-être un petit peu plus pointu, dans l'ingénierie finalement, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, donc avec Pierre Mousti, comme je le disais, nous sommes en train de créer en fait un laboratoire d'ingénierie et d'études des changements de comportement autour en fait des mobilités durables. Voilà, donc ça ne concernera pas uniquement le vélo, puisqu'il y a d'autres solutions pour réduire aussi notre impact carbone. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir en fait travailler avec les acteurs du territoire sur ces questions de mobilité de manière un peu plus globale.
Vous avez rejoint une pépinière d'entreprise, on pourrait dire ça, c'est ça?
Oui, notre projet donc de laboratoire a été en fait, nous avons candidaté sur la grande région Aura. C'est à Alterincube. Et Alterincube, oui, c'est une pépinière d'entreprise, c'est un incubateur. Voilà, et notre projet a été reçu en tant que projet innovant en économie sociale et solidaire.
Sans forcément détailler, quelles autres options de mobilité pour vous sont à venir pour les entreprises?
Alors, pour les entreprises, c'est une bonne question. Pour les entreprises, aujourd'hui, on demande à des entreprises de plus de 50 salariés, en fait, de revoir leur plan de déplacement pour leurs salariés. Donc là, c'est intéressant. C'est tout un travail de diagnostic et d'études de besoins. Et en fait, l'idée, c'est de repenser les déplacements des salariés pour optimiser finalement l'usage de la voiture si on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est toutes les questions du covoiturage ou de la voiture partagée, voilà, sur les entreprises.
Est-ce que ça peut aussi passer par des options comme le télétravail?
Ça peut aussi, effectivement. Alors, ça passe aussi par les options du télétravail ou des aménagements d'horaires. Des aménagements d'horaires, c'est-à-dire, effectivement, des personnes qui vont, des possibilités de travailler 4 jours au lieu de 5, parce que c'est toujours un trajet qu'on fait en moins. Donc, c'est de condenser un peu des horaires sur certaines journées, oui. Ça fait partie des options possibles.
Ne prenez surtout pas mal cette question. Pédaler, c'est bien, mais c'est quand même pas quelque chose que l'on peut faire facilement toute sa vie. Comment envisagez-vous votre avenir ?
Mon avenir, bon, pour l'instant, je suis encore en forme pour pouvoir pédaler.
Ah bah, je le souhaite, je vous le souhaite.
Donc en fait, pour l'instant, je me vois bien encore sur une selle pendant un bon moment. Voilà, et puis après, de toute façon, voilà, il y a aussi toutes ces questions. Moi, je suis très intéressée par tout ce qui peut être justement toute l'ingénierie et toutes les questions autour des changements du comportement. Et donc il y a aussi du travail à faire à côté de son vélo.
Tout à fait. On parle aussi dans les nouvelles technologies de l'avenir des batteries sèches, plus performantes et plus écologiques. On parle aussi de nouveaux moteurs qui pourraient supplanter les moteurs brushless. Est-ce que vous vous intéressez à ça?
Tout à fait. On s'intéresse beaucoup en fait à tout ce qui touche toutes les innovations techniques qui pourraient effectivement apporter une réponse par rapport aux moteurs plus carbonés. Pour l'instant, il n'y a pas de solution, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution non plus idéale. Donc, ce qui est intéressant, c'est de réussir à panacher, en tout cas, et de panacher et d'optimiser les solutions.
À l'heure actuelle, votre remorque n'est pas énorme. Elle pourrait tout juste accueillir un panneau photovoltaïque. Est-ce que ça pourrait éventuellement vous apporter quelque chose, ou est-ce que le surpoids est finalement totalement inutile?
Non, c'est une bonne question. Il y a pas mal de d'expériences comme ça qui se font actuellement en équipant des vélos avec des panneaux solaires. Ça fait partie effectivement des solutions. C'est pas une solution à mon avis qui peut être envisagée toute l'année, mais en tout cas ça fait partie des possibilités. Oui, ça m'amuserait beaucoup de pouvoir concevoir aussi pour mon vélo ce genre de technique.
Pour quelqu'un qui souhaiterait accompagner ses enfants à l'école ou aller au travail avec un vélo long tail. Quel investissement il faut environ? Est-ce que vous le savez?
Alors oui, il y a un investissement, hein. C'est sûr que un vélo long tail, maintenant les prix ont un peu changé puisque ça s'est un petit peu démocratisé, mais c'est vrai qu'il y a un budget, autour de 3 000-5 000 euros. Mais voilà, après, si on y réfléchit un petit peu et qu'on fait le compte par rapport à l'usage de sa voiture, économiquement, on s'y retrouve.
Il y a quelques aides de l'État ?
Oui, il y a quelques aides de l'État qui sont en train de changer un petit peu et plutôt en faveur du coup de tous ces nouveaux modes de déplacement. Donc je pense qu'il faut aussi se saisir de ces belles occasions.
À part ce chèque qui vous a été remis par l'association Sœurs Optimistes, est-ce que vous avez réussi à obtenir des financements ou d'autres aides ?
Alors pour l'instant, je n'ai pas, je suis partie avec des fonds propres, hein, pour monter cette société. Après, j'ai été aussi aidée par la région et par en fait la FUB, qui est la Fédération des utilisateurs, pardon, de bicyclettes. Donc voilà, oui, j'ai eu quelques aides.
Alors un petit coup de pouce finalement qui peut aider, quoi.
Un sacré coup de pouce qui peut aider,
ouais. D'accord.
Ouais.
Bon, bah, c'est plutôt une très bonne chose. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ces chroniques terriennes. J'espère qu'on aura l'occasion de nous rencontrer à nouveau concernant votre nouveau projet.
Oui, tout à fait. Je vous tiendrai au courant de l'avancée du nouveau projet qui s'appelle Progress.
Progress, oui, il faut le dire. On va finir avec vos coordonnées, bien évidemment. Un numéro de téléphone, je suppose.
Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 85 27 80 28.
Donc, les entreprises peuvent vous contacter à ce numéro.
Voilà, tout à fait.
Présente sur les réseaux sociaux?
Pas encore, mais très prochainement.
Très prochainement. Un site internet, peut-être?
Pareil, prochainement. C'est en cours.
C'est en cours. Élise, je vous souhaite tout le succès possible dans votre entreprise et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce numéro des Chroniques Terriennes.
Merci, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup.
Radio Pays d'Aurillac.
bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques terriennes. Vous êtes le groupe Ashkabad. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, ben déjà bonjour, moi c'est Rog, je suis guitariste-chanteur dans le groupe Ashkabad.
Et moi c'est Bastien, je suis aux machines dans Ashkabad aussi.
Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse du groupe Ashkabad?
Bast?
Oui. Bah écoutez, c'est une rencontre amicale au-delà d'être musicale. On s'est rencontrés assez longtemps avec Rog, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Et puis on a toujours continué à faire de la musique ensemble. Et le projet Ashkabad a germé plutôt en 2010-2011, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant.
Ah oui, on va dire presque 12 même.
Presque 12, ouais, ça ne nous rajeunit pas, mais presque 12.
Oui, en parlant d'âge, vous avez quel âge tous les deux?
Moi, je vais sur mes 43 ans, personnellement.
Dans la musique depuis tout le temps?
Depuis un peu avant la mort de Kurt Cobain. Donc,
oui, voilà, ça remonte.
Ça remonte, effectivement. Oui, je devais avoir 12-13 ans. Enfin, j'ai toujours aimé la musique, mais 12-13 ans, quand on m'a mis un instrument dans les mains. Et c'est vrai que là, ça m'a jamais lâché. Et Bast, je pense que c'est pareil, ça a commencé très jeune aussi. Donc, c'est un métier passion, c'est une passion même dévorante en ce qui nous concerne. La musique, on le voit bien, bien, bien au-delà. Je pense, comme beaucoup de musiciens, au-delà d'un métier, c'est juste une passion. Une nécessité, et on en ferait quand même si on n'avait pas la chance de pouvoir faire autant de concerts que ce qu'on fait.
Bastien, même chose?
Oui, moi depuis assez jeune, peut-être pas assez jeune pour avoir fait un cursus conservatoire, tout ça, mais j'ai commencé à taper sur des tambours vers 15 ans à peu près, et puis après, j'ai découvert
percussionniste.
Un peu l'univers des... Batteur, oui.
Batteur.
Batteur, un peu touche à tout, donc je suis, voilà. Je sais faire un peu plein de choses, mais je ne sais pas vraiment faire un truc très bien.
est-ce que finalement la musique, c'est pas ça? Est-ce que c'est avoir du plaisir? C'est pas nécessaire de faire tout très bien à partir du moment où ça se passe bien finalement?
Tout à fait, mais de toute façon, moi je reste persuadé que la musique, c'est un juste équilibre entre connaissances, parce que je pense que c'est quand même à un moment donné, en tout cas, je pense qu'on l'a tous les deux ressenti, d'avoir quelques connaissances musicales, ne serait-ce qu'en harmonie, en rythmique. Ça aide, c'est toujours un outil qui est appréciable. Mais je pense que trop d'apprentissage scolaire de la musique, ça peut tuer l'instinctif, la créativité, le sur le moment. Voilà, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre les connaissances musicales qui nous permettent d'avancer un poil plus vite que par la découverte. Voilà. Et en même temps, voilà, faut garder de la fraîcheur, faut garder de l'instinct.
Oui.
Je pense que c'est très important. Donc chacun, je pense, doit trouver son équilibre là-dedans. Voilà. Mais trop de l'un ou trop de l'autre, je pense que c'est pas forcément le top. Faut trouver le juste équilibre, comme beaucoup de choses finalement sur Terre.
Manoukian, en interview sur France Inter très récemment, disait il faut réapprendre à improviser. Qu'est-ce que vous en pensez?
Réapprendre à improviser. Alors. Ouais, j'aurais besoin d'un contexte dans
le sens où la musique, à la base, c'était de l'improvisation, qu'elle est devenue beaucoup plus, on va dire, littéraire, plus partition à partir du 19e siècle, et que finalement, avec l'arrivée du jazz et d'autres mouvements musicaux, elle a appris de nouveau à se réimproviser. Et lui, il disait que maintenant, il serait bon que chacun pense à réimproviser.
Ouais, alors après, je pense que, par exemple, pour prendre notre cas personnel, chaque live est improvisé. Dans le sens où, effectivement, on a une structure, même à la guitare ou au chant, on a une certaine structure, mais chaque live sera différent. Même si on est électro-instrumental, on va avoir des questions-réponses l'un l'autre, chaque soir différent. Instrument, machine, et ça, je pense que, en tout cas, pour notre part, on l'a pas perdu, et justement, c'est important pour nous, même de pas avoir une setlist qui soit carrée et définitive pour l'année à venir, par exemple, et c'est que chaque soir se permettre de juger en fonction du feeling des gens, du public, déjà les morceaux qu'on va jouer. Donc rien que ça, ça reste aussi de l'improvisation, et je vous dis, même sur scène, c'est très important pour nous, justement, d'être connectés, et c'est ça qui nous donne aussi énormément de plaisir. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrive à communiquer. Notre plaisir, c'est d'être connecté et d'être aussi dans cette improvisation-là, malgré le cadrage que l'électro nous impose un peu.
Alors, merci de Rog. Oui, Bastien, vas-y.
Je le rejoins pleinement. Et si je pense que si on devait lire une partition à la note près, au silence près, tous les week-ends, on serait beaucoup moins épanoui dans notre métier. Et après, y a des gens qui trouvent leur compte là-dedans, et tant mieux. Mais c'est vrai que nous, c'est important qu'on ait une part de liberté dans l'interprétation des morceaux qu'on joue. Et on tient vraiment à garder ce goût de liberté qu'on a dans nos concerts.
Comment définiriez-vous votre musique? Alors je sais que c'est une question un peu pénible parce que c'est dur de se mettre dans des cases. Si vous deviez décrire à un profane votre musique, qu'est-ce que vous lui diriez?
Si on veut aller vraiment au plus simple, et Rod, tu me dis si je dis des bêtises.
Vas-y.
Pour moi, le plus simple, c'est que l'étiquette qui nous convient le mieux, c'est électro-dub, sachant que si vraiment c'est un profane, c'est un mélange de reggae et de musique électronique. Mais voilà, ça c'est vraiment hyper simpliste comme définition, parce que nous, notre musique, on tient beaucoup aussi à apporter énormément de choses, énormément de courants musicaux, énormément d'influences, que ce soit...
À votre âge, on a forcément des influences.
Oui.
Je pense qu'on peut avoir des influences à tout âge. Moi, je sais déjà qu'à 10 piges, je pouvais autant écouter du Led Zepp que du Sade. C'est ça, je pense que. Mais par contre, c'est après.
C'est un joli grand écart.
Oui, bah oui. Mais le c'est comment rajouter ces épices, en fait, toutes ces épices qu'on aime manger comme ça séparément. Comment arriver à faire un autre plat en mélangeant toutes ces épices qu'on aime et à en faire quelque chose de bon. C'est pas forcément évident parce qu'on fait pas n'importe quoi avec les épices, mais voilà, je pense qu'effectivement on a cette base là de l'électro et du dub reggae, mais dans lequel on va rajouter beaucoup de choses qui peuvent aller même de la pop jusqu'à la musique traditionnelle chinoise. Voilà, donc c'est je pense que c'est le dub permet, donc évidemment on va pas rentrer dans un grand débat sur est-ce que c'est un style de musique, est-ce que c'est une façon de composer, de créer ou de remixer un morceau, mais je pense que le dub permet justement ça. C'est parce que en lui-même, dans l'essence même du dub, c'est pas vraiment un style de musique, c'est une façon de recomposer un morceau, et donc je pense que ça permet justement tous ces mélanges, tous ces crossovers que d'ailleurs certains manient à la perfection. Je pense par exemple à l'Entourloupe qui arrive à faire ce crossover entre le hip-hop et le reggae. Voilà, je pense que aujourd'hui c'est très difficile de mettre des étiquettes tellement les courants et les influences partent un peu dans tous les sens, et dans le dub français particulièrement, je pense qu'il y a un éventail absolument complet de tous les styles de dub, et même encore du vieux dub old school jusqu'au dub techno. Voilà, je ne sais pas si ça répond ou si je me suis un peu emballé sur la
réponse. Non, c'est en tout cas, c'est très intéressant d'entendre ça. Bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si pour vous, l'utilisation de l'informatique, c'est aussi de la musique, puisqu'effectivement, vous l'utilisez. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous, l'arrivée de l'informatique ces dernières années dans la musique?
Ça a changé énormément de choses pour beaucoup de monde, puisque aujourd'hui, à peu près n'importe quel jeune ou vieux d'ailleurs qui se dit tiens, j'aimerais bien faire un peu de la musique, il lui suffit de pas grand chose, pas beaucoup d'investissement, un ordinateur, un casque, une petite session de 2-3 jours pour apprendre les bases d'un logiciel, et puis après on peut avoir 75 violons dans son salon sans problème.
Oui, et puis même et si alors... on veut un clavier maître, ça vaut quoi? Ça vaut
50 balles.
50 balles, oui, c'est ce que j'allais
dire. Ah, genre, donc c'est pour moi un truc hyper positif, c'est que tout le monde peut mettre ce qu'il a dans sa tête sur un ordinateur en pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de temps. Et après, si ça a des dérives, je les connais pas. Moi, je trouve ça vraiment positif. L'informatique a apporté énormément de choses à la musique et à ceux qui veulent la pratique.
J'aimerais rajouter un truc aussi, c'est que on peut vous faire écouter les mix qu'on faisait à l'ordinateur. On a eu la chance, en fait, de plonger dedans relativement jeune. Mm-hmm. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on est vraiment dans la MAO. Les mix et les morceaux qu'on faisait il y a 20 ans et les mix et les morceaux qu'on fait aujourd'hui montrent qu'il y a une évolution, il y a un progrès, une progression finalement qu'on retrouve pour n'importe quel instrument. Un très bon claviériste, on va lui mettre un logiciel de MAO et donc tout le matériel pour faire un morceau, c'est pas forcément gagné qu'il fasse un très
quelque
bon
chose de bon. Oui, on est bien d'accord.
Voilà, c'est un instrument qui s'apprend, et en même temps on dit les dernières années, mais moi je sais que les premiers logiciels sur lesquels j'ai eu la chance de commencer, alors mon père était dans l'informatique, donc c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de pouvoir toucher aux ordinateurs relativement tôt, mais je pense que c'était 96-97.
Ah bah j'ai commencé avant sur Apple 2GS.
Voilà, bon, bah, voilà. Mais dans le truc vraiment grand public, c'était, voilà, c'était déjà fin des années 90. On pouvait déjà commencer à mettre les mains là-dedans sans problème, moyennant, voilà, pas beaucoup d'argent.
Oui, un faible coût d'équipement, en tout cas.
Effectivement. Voilà, donc, oui, mais oui. Je pense en tout cas que ça reste un instrument à part entière. D'ailleurs, je dirais, comme pour les DJ qui manient les platines, pour moi, ça reste un instrument aussi à part entière. Mmh.
Thank you.
Radio Pays d'Aurillac.
Beaucoup d'électronique sur scène, vous avez un gros équipement ?
On a pas mal d'équipements, mais on a su rester raisonnable. Dans le sens où ça nous arrive aussi de voyager en train. Mais oui, on a...
Donc là, faut voyager léger.
C'est pas si léger, figurez-vous.
C'est compact. Certain,
mais c'est compact. C'est vraiment optimisé pour prendre le moins
de place possible.
Après, voilà, on s'interdit pas non plus de rester dans le setup juste parce que c'est encombrant ou quoi. Alors évidemment que je sais pas, je vais pas prendre un orgue de barbarie avec moi, mais on utilisera des fonds. Mais j'ai quand même, moi pour ma part, en machine. Pas mal de machines différentes, beaucoup d'effets aussi. Et Rog a un sacré paquet d'effets aussi avec sa guitare. On essaie de trouver le bon compromis entre encombrement et poids et possibilité de s'exprimer comme il faut sur scène. Quoi.
Alors rassurez-moi, vous n'arrivez pas à Aurillac en train ?
Non.
On part demain matin.
C'est très compliqué de venir à Aurillac. Hein.
Oui.
Est-ce qu'à votre âge, est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à vivre de la musique ?
À notre âge, d'autres groupes, oui, probablement. disons que moi, j'avais déjà plus de 30 piges quand on a commencé le projet HKBA. Donc, même si je faisais la musique depuis longtemps, le projet en lui-même, Bass, ça fait plus longtemps qu'il est dans le milieu de la musique. Aujourd'hui, très sincèrement, non, on ne vit pas du projet HKBA. Malheureusement, on n'en est pas encore là, on n'est pas très loin, mais on est obligé de faire des trucs à côté.
Combien de scènes par an ?
Ça varie d'une année à l'autre, mais on va dire...
32 en 2022.
Ah, voilà. C'est pas mal. En post-Covid, c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Avant le Covid, on était plus proche de 40,
plus. Tout à fait.
Mais une bonne trentaine, ce qui est effectivement vraiment pas mal pour une reprise post-Covid. Compliqué.
Oui, compliqué pour tous les artistes, de toute façon.
Et
un peu pour tout le monde, d'ailleurs.
Pour les peut-être aussi, et effectivement, pour tout le monde. Mmh.
Vous êtes déjà venus à Aurillac, tous les deux ?
Non, personnellement, non.
À Aurillac même, non, mais on a déjà joué à pas très loin, à Saint-Jacques-des-Blas.
C'est pas très loin, effectivement.
Je ne me rappelle plus le nom du spot.
Je pourrais peut-être pas vous aider, mais oui. Oui, mais effectivement, c'est vraiment pas loin d'ici. L'électro-dub sur Aurillac, ça parle à quelques personnes, puisque j'ai eu l'occasion d'interroger... pas mal de gens quant à ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intemporel pour vous, l'électrodub ?
Ou
en tout cas intergénérationnel.
Intergénérationnel, oui, puisque maintenant les premiers qui ont commencé à amener le dub en France, ça devait être dans les années 90, début des années 90.
Oui, tout à fait.
Ça couvre quand même déjà presque 3 générations, on va dire. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Et on le voit parce que nous, comme vous dites bien à notre âge, on voit bien qu'il y a des petits jeunes qui déboulent là en ce moment avec plein d'idées nouvelles, plein de fraîcheur. Et ça fait plaisir à voir. Ça veut dire que ce style-là a en France encore de belles heures devant lui.
Une des preuves aussi, c'est que on a pu jouer sur scène avec Hightone, par exemple, qui sont un peu ceux qui nous ont fait vraiment aimer l'électrodub. C'est vraiment un peu nos papas et nos idoles, et donc on a pu croiser donc leur route avec des yeux brillants et tout plein d'amour. Et en même temps, ça nous arrive de croiser des jeunes qui ont découvert le dub avec nous et notre génération et les groupes. Donc finalement, oui, on voit que ça se transmet. Et puis, c'est une grande famille. Je trouve vraiment ça, c'est un truc qui est plaisant. C'est l'électro-dub en France, c'est vraiment une grande famille. Et
tout le monde se connaît, en tout cas.
C'est ça, on se croise très régulièrement. Finalement, il y a très souvent des scènes où on finit par recroiser les potes. Pas forcément tous d'after work. Il y a plein de potes à droite, à gauche. Et puis, on se recroise régulièrement. Et c'est toujours un plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de groupes qui bossent les uns avec les autres, beaucoup de featuring, beaucoup de mythes entre les différents dubbers. C'est pour ça que c'est aussi, je pense que ça évolue, ça avance, parce que c'est vivant, c'est vraiment très vivant, la scène électro-dub française est bouillonnante, quoi.
La musique, c'est sur scène, c'est aussi un peu d'éclairage. Vous allez certainement travailler avec le théâtre d'Aurillac, je suppose, pour l'éclairage.
C'est notre technicien qui a travaillé.
D'accord. D'accord, donc vous êtes une équipe de combien en tout ?
Alors en tout, on est une équipe, sur les concerts, on est une équipe de 4 ou 5, donc nous deux sur scène. Gauthier, notre technicien multitâche qui s'occupe du son et de la lumière. On a notre manager qui est avec nous aussi en tournée. Et on,
d'ailleurs,
on travaille
que je remercie d'avoir été si réactif, puisque je vous ai un petit peu bousculé sur l'emploi du temps. Moi, c'est vrai que l'émission, elle est lundi soir, mais il fallait bien annoncer votre concert avant votre venue. Donc, je le remercie beaucoup d'avoir été aussi réactif. Et je vous remercie aussi d'avoir répondu présent pour cette interview, en tout cas.
C'est avec plaisir.
Ouais. Plaisir. Et je, pour terminer, depuis 2022, on travaille avec un vidéaste qui s'appelle Raphaël Pelé, qui est très talentueux et qui nous fait des photos et des petites vidéos sur une grande partie de nos concerts. Après, pour l'équipe, il y a aussi une équipe en production, donc l'équipe label de Flower Coast à Clermont-Ferrand, notre tourneur évidemment Afterwork et notre label avec qui on travaille qui s'appelle Patchwork Production. Donc on
Patchwork
a une équipe,
Production qu'on connaît aussi, voilà, sur Radio Pays d'Aurillac. Vous êtes présent sur YouTube, je suppose?
Oh oui, on est partout. Ouais. Abonnez-vous.
Oui, mais on de toute façon, on va le faire. Alors, est-ce que vous pouvez donner votre chaîne YouTube? Bien sûr, c'est HKBAD, je suppose.
C'est HKBAD, voilà. Tout à fait.
Donc, ASHKBAD.
Il faut préciser, parce que en 10 ans de scène, on a eu le droit à des orthographes
fantaisistes
parfois. Mmh. Et fallait deviner que c'était nous, même des fois.
À ce donc, point-là, oui, même sur les affiches.
Oui, c'est arrivé. Effectivement. Donc, alors, voilà, c'est pour ça qu'on préfère préciser effectivement l'orthographe.
C'est facile à retenir. Quoi. D'où vient ce nom d'ailleurs?
Eh bien, c'est la capitale du Turkménistan et qui veut dire en fait, donc en turkmène, la ville des larmes ou la ville de l'amour, parce qu'ils ont le même préfixe pour l'amour et les larmes.
On va choisir l'amour.
Je pense qu'on est un peu dans les deux. On a quand même ce côté un peu mélancolique. Beaucoup de nos morceaux sont mineurs, voire la grande majorité. On a ce côté un peu mélancolique, effectivement, et qu'on retrouve quand même régulièrement aussi dans l'électrodub. Il y a l'électrodub en majeur, c'est pas un truc qui est trop à la mode. On va dire que la plupart des morceaux, quand même, à 95% tournent en mineur. Donc, en même temps, on trouvait beau cet écart-là. Et finalement, c'est un peu ce qui caractérise Ashkabat, parce que finalement, tous les deux, c'est moi, comme il vous a dit plus tôt. Il est plutôt rythmique, moi je suis plutôt mélodique, et on a une grande complémentarité finalement à plein de niveaux, et je pense que c'est ça qui fait la richesse d'Ashkabad et pourquoi ça dure depuis si longtemps, et cette amitié qui est devenue une fraternité maintenant. Voilà, on est très très complémentaires, et c'est vrai que ça aide beaucoup.
Mais est-ce que finalement la bonne musique, ça n'est pas une bonne rythmique et une bonne mélodie?
La situation de la bonne musique, chacun a la sienne au final, chacun se laisse un peu dicté par ses émotions quand il écoute quelque chose et ce qu'il ressent, quoi. Mais il y a de la musique sans rythmique qui est très belle, il y a de la musique... Il y a de la musique où il n'y a que de la rythmique, ou des orchestres de tambours et de choses comme ça qui sont très belles aussi.
Oui, d'ailleurs, on verra quelque chose un peu dans ce goût-là prochainement au Sismographe à Aurillac. Hein, quelque chose d'accord, d'un peu bien. Chamanique. Voilà. Un album, bien sûr, ou des albums?
Eh bien, on a sorti notre troisième album le 14 octobre dernier, me semble-t-il.
C'est ce que je me suis laissé entendre dire. Alors, on le trouve où, cet album?
Alors, vous le trouvez en téléchargement et en écoute sur toutes les plateformes classiques, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, tout ça. On le trouve sur support CD et vinyle, soit sur notre site dans la boutique, ou sur le site de notre label Flower Coast, ou chez tous vos disquaires, en fait. La Fnac, tous les classiques.
Et à chacun de nos lives, évidemment.
Alors, vous faites une séance de dédicace en fin de concert à Aurillac?
Avec plaisir.
Ah oui, tout à fait. Ah,
c'était pas prévu? C'était prévu?
On finit souvent de toute façon après les concerts, on finit par aller au merch et pour saluer un peu tout le monde dès qu'on nous laisse la possibilité aussi, c'est parce que des fois il faut qu'on remballe assez rapidement.
C'est très 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 cool à Aurillac, vous allez pouvoir prendre votre temps et le temps de rencontrer votre public aussi.
C'est parfait.
C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup d'avoir un temps d'échange après nos concerts.
Oui, le public aime ça de toute façon.
Généralement, oui. C'est rare qu'on se fasse accueillir à coups de tomates.
C'est déjà arrivé?
Non, fort heureusement.
Une fois, Roger a reçu une claquette sur scène.
Oui, c'est vrai.
Une tong. Bah, fallait demander la seconde, ça peut être utile.
Eh, mais c'était pas sa taille en plus.
Bon, bah, c'est trop dommage.
Donc, depuis cet été, je boite avec ma tong.
Voilà, bah. Donc, si quelqu'un a une tong.
En 46,
en 46
chaussure gauche.
Chaussure gauche, bah voilà, on précise. Non, faut faire gaffe, il serait capable de les amener en plus. En tout cas, je
trouve facilement en ce moment à Aurillac.
Oui, en ce moment à Aurillac, oui, on trouve beaucoup plus facilement des asprès ski puisqu'il neige. Enfin, il a neigé jusqu'à ce matin. Maintenant, c'est parti au beau fixe. Vous allez arriver, d'ailleurs, il fera beau, donc c'est plutôt sympa. Il fera froid, mais ça n'empêche pas les Aurillacois de se déplacer puisque au dernier concert de rap qu'il y a eu au Sismographe, il faisait moins 8 et la salle était pleine. Donc,
très bien.
C'est un avantage.
C'est un avantage, tout à fait.
C'est vrai que le microclimat d'Aurillac, voilà, c'est sûr que c'est... À chaque fois qu'il fait moins de 10 degrés, on sort pas souvent.
Mais en fait, vous savez que c'est quand même une grosse légende. Aurillac n'est pas la ville la plus froide de France. Il s'agit de Moutes dans le Doubs, la ville la plus froide de France. Et puis, le cœur...
Bon, bah vous êtes deuxième.
Mais... Voilà. Mais le cœur des gens est très, très chaud, en tout cas.
Bah, c'est l'essentiel. C'est bien l'essentiel. Et on a hâte de venir le sentir.
Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à cette interview. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission des Chroniques Terriennes. Et j'espère vous voir, bien sûr, lors de votre concert, où je ne manquerai pas de vous tendre le micro pendant une ou deux minutes pour vous demander vos impressions, en tout cas.
Ce sera avec grand plaisir.
Ça marche.
Et merci pour ce temps aussi et ce petit moment d'échange très sympathique.
Say, I and I is like a tree that planted by the river of water. And not even the dog that piss against the wall of Babylon shall escape this judgment. For I and I know that all of you shall witness the day that Babylon shall fall.
C'est en musique avec le groupe Ashkabad que s'achève notre émission d'aujourd'hui. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop d'avoir coupé leurs morceaux. Je remercie tout particulièrement d'avoir participé à cette émission Rog et Bastien du groupe Ashkabad, ainsi qu'Élise Burguin de Cycle of Course. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple, contactez-moi au 07 69 25 96 69. Retrouvez vos chroniques terriennes sur YouTube, sur la chaîne Chroniques Terriennes. Au revoir à toutes, au revoir à tous.